Moi, je suis André du mouvement Location Orientale. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Félix de Combati, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est-à-dire ce qui est président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le projet d'accord politique du dialogue prévoit notamment la formation d'un gouvernement de large union nationale qui sera dirigé par une personnalité issue de l'opposition et le président Kabila conservera ses fonctions jusqu'à l'installation du prochain président élu. Certains observateurs estiment que ce projet d'accord est bon. Une autre opinion pense que s'il vient à être adopté, ce projet d'accord va violer la Constitution. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiopec.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Paul Badianiama est à la mise en onde de ce programme. Julie Feza Bongonda assure les standards de cette émission. Pierrot et la Mégie est à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Labou Andy sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Dans le préambule de ce projet d'accord, il est bien dit, nous fondons sur la Constitution de la République adoptée en février 2006, telle qu'amendée en 2011, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la résolution 2277 et les autres instruments juridiques et normatifs nationaux et internationaux pertinents, nous engageant à respecter la Constitution dans sa totalité et à nous abstenir de toute lecture sélective des dispositions constitutionnelles, à quelque fin que ce soit, ayant senti la nécessité d'un dialogue politique national et inclusif depuis quelques années, et ce dans le souci d'améliorer le processus électoral, de régler les contradictions en résultant et de prévenir les crises politiques pouvant en découler, engagé à promouvoir le dialogue et la résolution pacifique des différends dans un esprit de compromis en accordant la primauté à l'intérêt national bien compris, conscient de nos responsabilités devant le peuple congolais, l'Afrique et la communauté internationale, prenant à témoin le peuple congolais et la communauté internationale, nous représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition politique et républicaine et de la société civile, ainsi que des personnalités congolaises, convenant, c'est qu'ici, nous allons pas lire l'intégralité, mais l'article 1er dit ceci, dans un souci d'assurer l'inclusivité des processus électoraux et l'universalité des suffrages, et conscient des graves manquements constatés dans les fichiers existants de 2011, nonobstant une réforme effectuée en 2015 et prenant acte des avis techniques de la Commission électorale nationale indépendante et des rapports d'experts de l'ONU et de l'OIF, nous convenons de l'élaboration des nouveaux fichiers électoraux. Article 7, la CENI publie au plus tard 15 jours après la signature du présent accord un calendrier détaillé des différentes tâches d'élaboration du fichier électoral et de l'organisation des différentes séances. Mesdames et messieurs, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Il y a au total 38 articles dans ce projet d'accord. Nous allons comprendre de manière un peu succincte vos interventions, vos analyses pour, en fait, nous faire une idée très claire par rapport à votre compréhension générale. Alain Bologio, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tout le monde.
Alors, vous avez sûrement lu ces projets d'accord, Alain. Quelle est votre réaction par rapport à ces projets d'accord?
Bon, moi je dirais que l'idéal serait que nous organisions les élections dans le délai, mais étant donné que nous sommes en face d'une évidence qui voudrait tout simplement nous faire savoir que nous ne pouvons pas le faire cette année, eh bien on doit lever des options politiques tendant à décrypter ou sinon à anticiper sur des éventuelles crises, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, nous savons tous que la question électorale, c'est une question épineuse qui voudrait assez que la classe politique puisse trouver une solution, d'autant plus qu'il y a une intégration ou carrément une culturation de cette de cette question au niveau de la population, eh bien, moi, je soutiens partiellement cet accord qui apparaît de mon point de vue assez optimal du fait que ça va nous empêcher ou nous éviter de connaître des crises, mais aussi à ramener sur les rails le processus électoral. Et bien, la question fondamentale de voir si cela va violer la Constitution. Moi, je dis, s'il y a une certaine opinion qui pense que la Constitution sera violée, eh bien, moi, je leur dis que la Constitution est déjà violée. Mais ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est réduire les effets néfastes qui pourraient mettre en mal, non seulement la Constitution, mais aussi la fibre sociale. Alors, si on doit voir en termes de qui va représenter l'opposition au niveau de ce gouvernement, naturellement, on devrait avoir Tshisekedi. Papa Tshisekedi, qui était le deuxième par rapport aux élections de la fois passée. Mais malheureusement, lui aussi ne pourra peut-être pas accepter cette offre. Donc, la personne qui vient en deuxième position, c'est M. Kamere. Il y a certaines personnes qui pensent que si aujourd'hui on constitue un gouvernement, cela serait en violation de certaines dispositions constitutionnelles, disant que le chef du gouvernement ou le chef du gouvernement sera issu de la majorité parlementaire. Au stade actuel, vous allez vous rendre compte qu'il y a possibilité d'élargir la majorité parlementaire sans pour autant toucher la majorité présidentielle. Parce qu'il y a une confusion
voilà, dans les esprits. Oui, allez, tout allons tout droit au but. C'est vrai, il est dit clairement que tu auras formation d'un gouvernement de large union nationale qui sera dirigé par une personnalité issue de l'opposition. Vous avez dit, dans la logique, ça serait pratiquement Étienne Tshisekedi, mais qui ne participe pas à ces dialogues. La troisième personne qui participe à ce dialogue, c'est Kamere, à qui revient de droit, donc cette place selon vous. Alors, mais le deuxième volet maintenant, le président Kabila conservera ses fonctions jusqu'à l'installation du prochain président élu.
La condition est claire. J'ai même eu l'opportunité de lire les archives parlementaires. Effectivement, le constituant a anticipé sur cela. Voilà pourquoi on a ajouté les deuxième alinéas dans l'article 70. Et maintenant, ce qui doit se faire après la signature de cet accord, ce que moi je demande à la classe politique, on doit établir des responsabilités. Parce que je ne pense pas que nous pouvons construire un état de droit, un état démocratique, alors qu'il y a l'impunité. Aujourd'hui, c'est vrai, il va avoir cet accord. Cela sera certainement signé, parce que c'est la volonté de la communauté internationale et d'une bonne frange de la population. Mais ce qui est aussi important, si nous voulons consolider notre démocratie, et pas en dose des responsabilités.
Voilà.
D'après la Constitution, la responsabilité première pour gagner les élections incombe à la CENI.
Merci beaucoup.
En ce qui concerne le financement des élections, c'est le gouvernement.
Oui, tout a été dit dans cet accord. Je crois que tout au long de cette émission, nous allons développer chacun. On va faire des analyses par rapport à tous ces articles. Mais nous retenons, Alain, pour vous, l'idéal, c'est d'organiser les élections apaisées, car la question électorale, c'est l'élément d'ailleurs, selon vous, à toile de fond, des différends entre la majorité et l'opposition depuis les élections chaotiques de 2011. Donc je crois qu'aujourd'hui, il revient à la CENI d'organiser des élections apaisées et au gouvernement de financer ces élections. Voilà, donc tout est défini quant à la sécurisation et aussi à la confiance qui doit entourer l'organisation de ces élections. Merci beaucoup. Alors Jean-Paul, vous êtes à qui vous avez voté. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Gilles, merci pour la parole.
Alors, c'est vrai, on parle beaucoup plus du gouvernement, mais dans cet accord, dans ce projet d'accord, on ne met pas un accent sur les statuts du président de la République.
En fait, c'est là le problème. Moi, je suis plutôt pessimiste à propos du gouvernement qui sera dirigé par l'opposition. Donc, ce gouvernement que nous pensons peut-être qui sera mis en place ne va même pas résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. La crise est tellement profonde et cela nécessite du moins une rencontre personnelle entre les deux grands leaders, quoi. C'est-à-dire les chefs de l'État actuel et M. Étienne Tshisekedi. Nous l'avons vu en 2006.
Oui, Jean-Paul. Je pense que les choses ont tellement évolué que maintenant nous sommes déjà au niveau d'un projet d'accord. Parce que bientôt, les participants à ce dialogue pourront apposer leur signature sur ces documents. Et il est dit, je l'ai dit tantôt dans le préambule, conformément à la Constitution, à la résolution 2277, et prenant le peuple à témoin, voulant que la paix puisse régner sur tout le territoire national, voilà que les participants ont décidé, ils ont convenu sur la refonte des fichiers électoraux, l'organisation des élections présidentielles séquencées donc par les présidentielles législatives et provinciales et les locales des élections générales pourraient être organisées au même moment ou concomitamment avec les trois premières si les moyens le permettent. Donc il y a autant de dispositions qui ont été déjà prises. Et quelle est votre réaction quant au gouvernement de large union nationale qui sera dirigé par un premier ministre issu de l'opposition et le président de la République actuelle qui reste en place?
C'est ce que j'ai dit hier. Vous dites que les choses ont beaucoup évolué, mais pourquoi on assiste tous toutes les démarches de pays de conseils de sécurité autour de leaders? Ça signifie que les choses jusque-là n'évoluent pas telles que vous les croyez. Il y a un problème sérieux. Alors il faut nécessairement qu'on trouve un consensus. Et un consensus comme le projet de l'Église catholique, un consensus large consensus pour mettre tout le monde d'accord. Parce que mettre un gouvernement qui sera dirigé par l'opposition, mais quel est cet opposant qui va diriger ce gouvernement? Et on connaît déjà, c'était tout d'abord des rumeurs qui ont circulé, et on connaissait déjà les résultats de ce dialogue. On savait déjà que c'était Kamere qui doit diriger, entre guillemets, le gouvernement qui sera mis en place. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la personne de Kamere. Mais alors, il faut obtenir les consensus. Or, les consensus, c'est comme ça. Moi, j'ai pensé, à mon avis, il fallait peut-être, comme ça a été en 2006, et on a vu Jean-Pierre Bemba et Kabila, et ils ont quelque part, et puis ils ont eu un compromis, et finalement, et la situation était décantée. C'est dans ce sens-là que moi, je souhaite. Il faut que les leaders soient ensemble. Aujourd'hui, personne n'est lion, passe à donner pas mal de propositions, peut-être de bonnes propositions, pour notre pays. Il fallait capitaliser cela, mais avec des grands leaders qui ont de l'influence sur la population congolaise. Donc, il ne faut pas écarter tous ces gens-là. On laisse les rassemblements en dehors.
Voilà. Alors, Jean-Paul, nous vous gardons en ligne. On va revenir à vous. Le temps de rappeler à tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également composer les 081-890-6315 pour l'intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook où se tient d'ailleurs cet échange citoyen.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va retrouver notre invité qui nous a rejoint également et qui est en ligne, M. Ambroise Kamukuni. Vous êtes constitutionnaliste, bonjour. Bonjour, M. Ambroise. Voilà, on a des petits soucis avec cette ligne de Ambroise Kamukuni, qui est constitutionnaliste à tendance à majorité. On va revenir à vous, Jean-Paul. Hein. Jean-Paul, vous êtes à qui vous avez voté? Tout à l'heure, vous parlez de ce gouvernement. Vous trouvez que même l'opposition qui participe dans ce dialogue, si elle a été accordée, donc ce poste de Premier ministre, ce ne sera pas une option qui pourrait ramener la paix, d'autant plus que le vrai problème, c'est Tshisekedi et Kabila, selon vous.
Oui, JR, c'est très important. C'est très important. Même ceux qui sont tout autour du chef de l'État, même s'ils font semblant, comme si Tshisekedi c'est quelqu'un qu'il faut écarter dans ce genre de discussion. Je pense qu'ils se trompent, mais lorsque vous pénétrez la population, vous voulez peut-être sonder l'importance de ce monsieur-là. Il faut qu'il participe. C'est comme ça que vous voyez même les ambassadeurs, ils sont devenus comme, je ne sais pas, des médiateurs tous, pour essayer de réconcilier tout le monde. Parce qu'on ne peut pas priver ce dialogue.
Est-ce que Jean-Paul, vous avez lu ces projets d'accord?
Malheureusement, il n'y a que des extraits que nous suivons à la radio.
Voilà, je crois que c'est notre travail. J'ai commencé par lire le préambule pour aider les uns et les autres qui nous suivent en ce moment, afin de se faire une idée très claire. Parce que, en fait, nous devons faire les débats sur les contenus même de ces projets. J'ai parlé tout à l'heure de l'article 7 qui parlait de la CENI qui publie au plus tard 15 jours après la signature du présent accord un calendrier détaillé des différentes tâches. Alors, les gens disent, mais pourquoi ne pas proposer déjà le calendrier lors des débats dans ce dialogue, au lieu d'attendre 15 jours, finalement, la CENI risque de proposer un calendrier qui ne va pas rencontrer, qui ne va plus rencontrer le sentiment des uns et des autres, ils ne vont plus revenir dans les dialogues. C'est ça le problème.
Mais il faut comprendre le JR que même au niveau du rassemblement, ils ont fait une proposition. Alors il faut confronter maintenant la proposition des rassemblements et la proposition du dialogue, c'est-à-dire les documents qui circulent. Et c'est à partir de là, peut-être qu'on peut se faire une idée, jusque là, il n'y a que la proposition du dialogue qui circule. Mais la proposition des rassemblements, jusque là, on n'en fait rien. Il faut qu'il y ait confrontation. Et à partir de cette confrontation, nous saurons maintenant quelle est l'option à prendre pour l'avenir de notre pays. Voilà, c'est pourquoi je dis qu'il faut réunir toutes les forces. C'est très important.
Alors, pour votre information, Jean-Paul, je crois que notre réalisation d'ailleurs nous a précisé qu'il y a au niveau du rassemblement un conclave qui pointe à l'horizon pour que on puisse ressortir un peu de résolution des recommandations à faire, à verser donc dans pour confronter en fait avec les résolutions du dialogue qui se tient à la cité de l'Union africaine. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kassou.
Alors vous avez lu Félicien, ces projets d'accord?
Ah oui, j'ai dit.
Alors votre commentaire tournera autour de quel
accord? Oui, moi je trouve qu'il n'y a rien qui a changé dans la volonté de ceux qui... Allô?
Oui, Félicien, on vous suit.
Oui, je disais, il n'y a rien qui est changé dans la volonté de ceux qui cherchent à tuer la démocratie et à retourner le pays dans l'ordre politique ancien. Dans ce projet, on ne précise ni la date des élections, ni la durée de la transition. On reprend sciemment l'article 70 qui a créé déjà la confusion sans ajouter des garde-fous. On parle du Premier ministre et des membres du gouvernement de transition qui ne peuvent pas postuler au poste de président de la République, mais pas d'un seul mot sur le président lui-même. Comme je l'ai cessé de le dire, il ne pourra rien sortir de bien de ce forum avec une opposition débauchée et la plupart des participants ramassés de toutes parts.
Et quel est votre
je pense qu'il n'était pas sur une mauvaise voie, que ce soit lui-même Edem Kodjo, que ce soit le président de la République, en tendant la main à la vraie opposition de Tshisekedi. Et Tshisekedi a démontré qu'il pouvait convaincre tous les autres qui étaient dans le non, 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 non. Mais en les convaincant, ils savaient qu'est-ce qu'ils voulaient. Le président de la République en convoquant ce dialogue, il sait ce qu'il veut, et c'est ce qu'il a en acceptant contre la volonté de tout le monde, il sait ce qu'il voulait. Il fallait qu'il continue sur cette voie, mais celui qui nous a causé tout ce tort, c'est Edem Kodjo, qui n'a pas été à la hauteur d'être vraiment un facilitateur qui puisse vraiment amener les deux temps sur une même table et à la raison. Et voilà, il est tombé très bas, et c'est pourquoi moi je pense que Edem Kodjo devait plutôt tenir compte de son honneur et de sa dignité et partir laisser les Congolais et les compatriotes qui sont vraiment des patriotes qui puissent organiser le vrai dialogue et sortir le pays de la situation
voilà,
des
alors,
pour venir plus que les meubles.
Voilà, Félicien, je crois que les dialogues de la cité de l'Union africaine touchera bientôt à sa fin. Il y a déjà un accord, un projet d'accord. Ça serait peut-être après les dialogues que Edem Kodjo pourrait partir. Mais dans cet accord, il est dit, parce que je ne sais pas si vous l'avez lu vraiment dans son entièreté, il est dit dans son troisième chapitre, relatif au calendrier électoral, le point B, que l'élection du président de la République, des députés nationaux et des députés provinciaux seront organisés à une séquence au plus tard le. Donc, on laisse à l'attitude à la CENI de compléter la date Donc l'accord sera signé dès lors que la CENI pourrait leur fixer, pour leur donner exactement la date fixe de l'organisation de ces scrutins. Donc je crois que tout est bien mentionné, tout est clair. La troisième page.
Non, mais justement c'est ça. Je vous ai dit que rien ne peut sortir de ce forum. Quand on voit de quelle façon on a ramassé les gens à gauche, à droite, qui entrent là-bas, si aujourd'hui on veut mener une pour voir qui est là, vous verrez qu'il y a même des gens qui ne pouvaient même pas être là. Mais c'est pour les besoins de la cause qu'on les a amenés là-bas. Nous ne voulons pas aller de problème en problème. Le dialogue ici, c'est pour résoudre le problème qui est arrivé.
Merci beaucoup,
Christian. Si réellement, c'est par accident, c'est par manque de moyens ou de ceci, cela, que le problème de l'élection du président de la République ne pouvait pas, l'élection ne pouvait pas se faire. C'est maintenant qu'on doit montrer que, dans tout accord, on doit montrer que le président de la République ou la majorité ne tient pas à pérenniser les pouvoirs du président de la République et qu'il veut partir, mais il y a eu des erreurs que nous devons corriger. Mais si on persiste à mettre des pieds, à ajouter des histoires comme ça, ça dit qu'on ne veut pas de la démocratie au Congo. Alors c'est pour cela que nous demandons, s'ils veulent vraiment un gouvernement de transition, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent apporter la paix, qu'on recourt et qu'on rentre à la case de part, qu'on travaille avec la vraie opposition de Tshisekedi, parce que la population croit en ces gens-là, et qu'ils pensent que pendant la transition, on peut donner peut-être du paix à la population. Or, aujourd'hui, c'est la souffrance qui amène les gens dans la rue, et on les tue à cause de cette souffrance. C'est pas pour obéir à la Tshisekedi ou à l'opposition, mais c'est parce qu'ils sont fatigués, ils sont dans la misère. Moi, c'est pourquoi les gens descendent dans la rue et ils bravent même les armes de la police.
Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous recevons notre invité. Voilà, on va l'accueillir tout à l'heure. Monsieur Ambroise Kamukuni. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Vous êtes constitutionnaliste à tendance majorité. Vous avez suivi les uns les autres. Mais la plus grande question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet accord, de ce projet d'accord politique? Est-ce que vous pensez, comme les autres qui disent que ce projet d'accord est très bon, et une autre opinion qui pense que s'il vient à être adopté, ce projet d'accord va violer la Constitution?
Merci beaucoup de m'avoir invité. Mais il faut retenir que les uns et les autres ont raison, parce que quand nous disons le projet de l'accord, il y a certaines dispositions qui ne cadrent justement pas avec la Constitution. Ça, c'est certain. Lorsque nous prenons, par exemple, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, et vous voyez que ce gouvernement doit regrouper non seulement les représentants de l'opposition, de la majorité présidentielle, et que ce gouvernement répondrait devant une majorité qui serait composée des députés de l'opposition et des députés de la majorité présidentielle. Ce n'est pas constitutionnel. Lorsqu'on lit l'article 78, et on ne peut pas imaginer qu'un opposant devienne Premier ministre. En ce moment-là, s'il devient Premier ministre, il est d'emblée, il doit être considéré comme membre de la majorité présidentielle ou de la majorité parlementaire. Et dire que, en ce moment-là, le gouvernement ne puisse pas répondre devant l'Assemblée nationale et que les décisions se prennent par consensus, déjà là, nous voyons que c'était une disposition de la Constitution, notamment 90, 100, 146, 147, et qui deviennent pratiquement inapplicables en ce moment-là. Or, j'ai l'impression que dès le départ, tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux, sont décidés à appliquer la Constitution. Donc, si on veut appliquer la Constitution, nous devrons prendre toutes les dispositions de la Constitution. Parce que chacun, ce qui le concerne, semble sélectionner les dispositions de la Constitution qui lui plaisent. Et les autres dispositions de la Constitution sont jetées à la poubelle. Et que ce soit les acteurs politiques comme les acteurs sociaux et tous les intervenants dans la presse, lorsqu'ils parlent des articles de la Constitution, ils prennent ce qui les intéresse et ils ne lisent pas les articles qui viennent par la suite. Il y a des bonnes dispositions qui ont été prises, qui retracent les accords. Les élections ne pourront pas être organisées dans le délai, tout à fait vrai. Et pour cela, il faut trouver une voie de sortie. Je crois que c'est ça la base. C'est ça la base des discussions qui se déroulent au niveau du dialogue. Mais puisque chacun, même au dialogue, si on sait que les dispositions de la Constitution soient appliquées, alors il faut qu'on y reste. Et qu'on y reste entièrement. Le dialogue a été convoqué pour pouvoir parler du processus électoral. Alors, quand on parle du processus électoral, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut se mettre d'accord. Vous venez de le dire, on s'est mis d'accord sur la séquence de l'organisation des élections, de telle sorte que les élections, l'élection présidentielle, les élections législatives nationales et législatives provinciales soient organisées au même moment. Ça, c'est entendu. Et les consultateurs ou les dialogueurs, comme on les appelle, ont convenu aussi qu'il y ait refonte totale du fichier électoral. Cela a été convenu. Mais il faut alors rester dans les lignes. Il faut rester dans les lignes. Et on parle de la période intérimaire. Je ne sais pas trop bien où est-ce que la Constitution prévoit une période appelée intérimaire. Il ne s'agit pas de cela. La Constitution prescrit qu'effectivement, les chefs de l'État cessent ses fonctions à l'installation effective.
Oui, oui, professeur Camusini, il y a une inquiétude parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont déposé leur message sur notre page Facebook. Il y a un qui insiste, en fait, qui exprime en tout cas clairement son inquiétude en disant qu'aujourd'hui, la page 10 de ce projet d'accord parle du chef de l'État au point A, dit que le président de la République actuelle reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Alors, d'aucuns avaient souhaité qu'il soit clairement dit et ne se représentera pas aux prochaines élections. Ça, c'est le souhait des uns et des autres. Et deuxièmement, le fait de les dire comme tel ne donne pas, en fait, dédouane le président actuel de... en fait, il n'y a aucun lien qui lie le président à la Constitution actuelle. C'est le projet d'accord. Donc, il ne peut pas, de manière ou d'une autre, être contraint de respecter encore les dispositions constitutionnelles par rapport à son statut.
Ah non, la conclusion que vous donnez m'étonne parce qu'il n'y a personne, le président de la République soit-il, qui ne puisse pas rester lié aux dispositions constitutionnelles. C'est tout le monde qui doit rester lié aux dispositions constitutionnelles. Moi, j'estime que la plupart des Congolais et d'autres expriment cette inquiétude et avec insistance. Et il y en a qui souhaitaient que, à la fin des mauvaises journées du 19 et du 20 septembre, que le chef de l'État aurait pu s'exprimer pour dire qu'il ne sera pas candidat. Moi, j'estime que sur le plan constitutionnel, on ne va pas demander cela. La Constitution a donné au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et cette Constitution n'oblige pas l'ancien président de la République à se déclarer qu'il ne sera pas candidat. Mais ça relève de quoi? Ça relève de quoi cela? Et même ceux qui se prétendent être candidats aujourd'hui, ils ne peuvent pas se déclarer candidats dans les conditions actuelles. Le corps électoral n'a pas été convoqué. Les candidatures n'ont pas été demandées. C'est de la fantaisie que c'est de se déclarer aujourd'hui candidat ou ne sera pas candidat. Pour quelles raisons on ne voudrait pas, si on doit respecter la Constitution, donner la liberté au chef de l'État de se taire. Il n'est pas obligé, il n'y a aucune disposition légale ni constitutionnelle qui l'oblige à dire « je ne serai pas candidat ». Ça ne veut rien dire cela. Lorsque le chef de l'État, ou l'accord, si, non seulement l'article 70, et si également... l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
L'arrêt de 162 du 11 mai 2016. Oui.
Ok. Mais il y a beaucoup de compatriotes qui contestent cet arrêt, mais qui oublient que c'est la Constitution là, cette même Constitution, qui n'a donné compétence à aucune autre institution de pouvoir interpréter la Constitution. chacun veut interpréter la position de sa façon. Supposons que la Cour constitutionnelle est mal jugée. Mais que dit l'article 168 de la Constitution ? Cet article dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ça signifie que si on veut respecter la Constitution, tout le monde doit rester conforme à la Constitution. C'est-à-dire en acceptant même des arrêts qui ont été mal rendus. Parce qu'en cette matière, il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut changer sa propre jurisprudence. Ce n'est ni l'opposition, ni la majorité présidentielle, encore moins les journalistes, voilà, qui doivent interpréter la Constitution.
Alors,
c'est le problème.
Oui, professeur, nous vous gardons en ligne, le temps de retrouver les deux autres auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre. Il y a Maître Trésor qui est à Kinshasa et Jean-Paul qui est à Mbandaka. Maître Trésor, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle lecture faites-vous en lisant par exemple la page 10 de ce projet d'accord sur la continuité de l'État, période intérimaire? Au point B, il est dit, conformément à l'article 74 de la Constitution, les candidats élus ou la candidate élue à la présidentielle entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. Est-ce pour vite expédier la transition qui sera en place?
Merci. Je pense que les carottes sont cuites et tous les ingrédients sont positionnés où on doit monter à table et que chacun il va se servir comme ça à tour de rôle. Par rapport à votre question, pour répondre rapidement, c'est ça qu'on appelle compromis politique. Et donc, les dialogues avaient comme but d'aboutir à un compromis politique. Ce n'était pas pour aboutir au respect ou à mettre fin à la violation de la Constitution, puisqu'il s'est devenu impossible. Et dans l'impossible, nul n'est tenu. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le professeur Kamukun. Il a semblé relever certaines violations de la Constitution dans les projets de cet accord. Mais j'aurais bien voulu qu'il le fasse à l'époque où on avait nommé les commissaires spéciaux, puisque, à mon avis, selon les informations à notre position, il fut lui aussi nommé commissaire spécial adjoint, constitutionnaliste, et il peut nous dire si c'était conforme à la Constitution ou pas. Je pense que cet accord politique ne doit pas aller dans le sens de tel débat. Puisqu'aujourd'hui, la problématique par rapport au respect de la Constitution ne trouvera pas une conclusion définitive, si vous voulez. Et donc, c'est une question qui n'a plus d'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, la question qui intéresse la République démocratique du Congo, c'est de voir ce qui arrivera après 2016. Et c'était ça la raison du dialogue. Les élections, au jour d'aujourd'hui, c'est impossible en 2016. Mais on dit que le président en fonction devrait quitter le pouvoir au mois de décembre prochain, ce qui est également devenu impossible. Donc, on doit voir qu'est-ce qui va arriver en 2017. Et c'est là le compromis politique en question. Et donc, l'accord n'a pas à discuter, à analyser les articles de la Constitution, mais plutôt de présenter la grandeur des gens qui ont participé à ce dialogue. Qu'est-ce qu'ils ont retenu comme compromis, comme disposition pouvant aider à éradiquer la crise politique qui est persistante et qui devient grandissante au jour d'aujourd'hui. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'il y a eu comme barbarie, comme vandalisme, tout ça, on a déploré.
Oui, Maître Trésor, revenez un peu dans cet accord. Est-ce que vous l'avez lu, personnellement? Est-ce que vous avez lu tous les 13 chapitres que comportent donc ces projets d'accord?
Quelques extraits, pas la totalité.
Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ces extraits?
Ce qui a retenu mon attention, c'est le gouvernement qu'on doit mettre en place.
Et quel est votre commentaire?
Oui, je soutiens cela, puisque en 2017, on ne veut pas que la majorité puisse s'accaparer du pouvoir aussi longtemps qu'il y a des mécontentements par-ci par-là. L'opposition a besoin, lui aussi, elle aussi, de se retrouver dans ce qu'il y aura comme gouvernement en 2017.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Réfléchir sur les élections qui auront lieu au terme de l'enrôlement des électeurs.
Merci beaucoup, Maître Trésor. Alors, on va prendre Maître Jean-Paul, qui est à Mbandaka. Maître Jean-Paul, bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour à tous les auditeurs de la radio. Bonjour à notre invité, le professeur Ambroise Kamkouni.
Alors, qu'est-ce que vous, vous avez retenu dans ce projet, d'accord, après l'avoir lu?
Bon, à l'entrée du jeu, je vous dirais, J.S., que cet accord vient enfreindre, une fois de plus, notre constitution qui est en fièvre. Je crois très bien que depuis la genèse de ces assises, nous avions toujours été pessimistes. Et ça vient, l'accord politique dont il est question vient corroborer les accusations dont on a toujours fait à l'égard du facilitateur, qui aurait dû être neutre entre la majorité et l'opposition. Il s'impose un problème. L'article 78 dit que, à son alinéa 2, dit que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité présidentielle parlementaire. Au cas où cette majorité n'existe pas, à ce moment-là, on doit recourir à la coalition. À ce moment, lorsqu'on va nommer le premier ministre issu de l'opposition, quelle sera la conséquence? Aussi longtemps qu'il y a des rapports publics entre le Parlement, entre l'Assemblée nationale et les gouvernements. Si vous voyez l'article 146, à son alinéa 2, dit que l'Assemblée nationale met fin. Vous voyez, peut engager, le premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Et à ce moment-ci, que le premier ministre n'a jamais été issu de la majorité parlementaire, ni de la majorité présidentielle. Lorsqu'il y aura des accords entre le Parlement et les gouvernements, quelle sera la conséquence?
Donc, si je comprends bien, Maître Jean-Paul, vous créez une crise institutionnelle.
Une crise énorme institutionnelle.
Oui.
Qui va aller à l'encontre de l'intérêt général du peuple congolais. Je ne vois pas comment on peut être spécialiste en violation de la Constitution. Vous voyez, hier, quand on est en train de marcher sur cette scène-ci,
oui,
on peut se souvenir, il y avait un journaliste à la radio Capi qui animait les paroles aux auditeurs.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que le président de la République, ainsi que sa suite, peuvent nous donner, donc ceux qui sont en train de faire peuvent nous donner, nous servir d'exemple.
Merci beaucoup, Maître Jean-Paul. Ben, il faut retenir que s'il faut lire la Constitution dans toute son intégralité, il y a certes des dispositions verrouillées, mais il y a d'autres qui peuvent subir même des modifications à tout moment quand le besoin se fait sentir. Merci beaucoup, Maître Jean-Paul de Mbandaka. Hugues, vous gardez la ligne. On va revenir d'abord à notre invité. Le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à cet échange citoyen en composant le 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Voilà, pour d'ailleurs renforcer, appuyer ce que venait de dire tout à l'heure Maître Jean-Paul, dans ce projet d'accord au chapitre 9e sur la continuité de l'État et période intérimaire, il est dit au point D, qu'il sera procédé immédiatement après la signature du présent accord et dans un délai ne dépassant pas 30 jours à la formation d'un gouvernement de large union nationale comprenant des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition politique et républicaine et de la société civile, sans préjudice des dispositions de l'article 78 de la Constitution. Le Premier ministre est issu des rangs de l'opposition. Professeur Ambroise Kamkouni, quelle est votre réaction?
Je venais de réagir dans le sens de votre dernier intervenant. C'est là que je critiquais justement le Premier ministre sera issu des rangs de l'opposition. Il répondra devant qui? Le Premier ministre qui vient de l'opposition, il aura quelle majorité au Parlement? Il y a donc risque que le Parlement, qui est en fonction maintenant, le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, est composé de députés élus.
De la majorité.
Encore en fonction. Oui, il est composé, et la majorité peut changer d'état à tout moment, mais en ce moment-là, pour respect aux dispositions de l'article 78, il aura fallu que le chef de l'État, en ce moment-là, agrandisse sa majorité en nommant un informateur
qui va devoir alors trouver un premier ministre qui répondrait à la majorité parlementaire. De décréter tout de suite que le premier ministre serait de l'opposition, eh bien, parce que vous m'avez demandé mon point de vue constitutionnel, ça viole les articles, notamment l'article 78, et plus loin, vous voyez que le premier ministre va travailler avec son gouvernement sur base d'une majorité composée de représentants de la majorité et de représentants de l'opposition. Eh bien, ça griffonne un peu sur notre constitution. Ben, j'ai entendu notre ami qui vous a appelé avant le dernier intervenant, qui évoquait justement cette affaire qui a fait couler tant d'encre de salive des commissaires spéciaux. Et c'est pour ça que je disais que la majorité de notre peuple lit simplement certaines dispositions de la Constitution. Celui qui a parlé sait très bien que les commissaires spéciaux n'étaient pas des gouverneurs de province. C'était des personnalités, des hauts fonctionnaires nommés à l'occasion pour maintenir la continuité de l'État. Et cela à la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et notre ami n'est peut-être pas au courant, il y en a qui se sont hasardés à saisir la Cour constitutionnelle pour juger de la constitutionnalité de la nomination des commissaires généraux, des commissaires spéciaux. Il peut donc s'informer pour savoir que ce que dit la Constitution concernant la Cour constitutionnelle doit être respecté par tout le monde. C'est bien de critiquer. Bien, vous devez critiquer, mais vous devez comprendre à la fin qu'il faut accepter ce que la Cour constitutionnelle a dit, parce qu'au-dessus de la Cour constitutionnelle, il n'y a aucune autre institution qui peut décider. Il est donc à signaler que sur le plan constitutionnel, il y a quelques violations qui risquent de
s'en suivre. Alors, professeur, quel est votre commentaire par rapport au point G qui dit que la Constitution de la République ne pourra faire l'objet d'aucun amendement avant la fin du cycle électoral en question dans le présent accord et l'installation effective de nouveaux élus?
Mais vous comprenez que s'agissant d'un dialogue politique, c'est pour rassurer des partenaires. Vous voyez la peur qu'il y a aujourd'hui. C'est de dire, mais si on ne sait pas à quelle date les élections auront lieu, si on ne sait pas ce qui peut se faire, ceux qui exercent leur mandat en attendant qu'ils changent de mandat peuvent en profiter pour changer la Constitution. Parce que la crainte pour tout le monde ici, vous venez de le dire, à tort certainement, que toutes les autres dispositions, à part les dispositions verrières, peuvent être revues,
modifiées.
Or, vous savez que dans cette Constitution, même une erreur matérielle ne peut même pas faire l'objet d'une révision dans ce pays. Lorsque vous parlez d'une révision constitutionnelle, les gens croient que vous allez couper de tête aux gens et que la Constitution ne peut jamais être révisée. Alors même que la Constitution elle-même prévoit sa révision. Il y a bien sûr des dispositions qui sont intangibles qui ne peuvent pas être révisées, mais toutes les autres dispositions peuvent être révisées pour adapter les dispositions de la Constitution à la réalité du fonctionnement des institutions. C'est ça qui nous oppose dans ce pays. Quand ceux qui ont rédigé l'accord proposent cela, c'est pour rassurer tout le monde, pour dire eh bien, il n'y a pas à craindre que le processus électoral va se dérouler tel que ça aura été décidé. Alors, ceux qui sont au dialogue.
Alors, le point H, d'ailleurs, complète, en fait, le point G en disant que, en reconnaissance des circonstances exceptionnelles de cette période intérimaire, l'on ne saurait procéder à l'élaboration d'une nouvelle constitution ni à l'organisation d'un référendum constitutionnel jusqu'à la fin de la période intérimaire et l'installation effective des nouveaux élus. Je crois que le débat sur les glissements, ça pourrait peut-être faire, on parle plutôt d'une période intérimaire. C'est une période intérimaire. Donc après le 19, c'est une période intérimaire, ce n'est plus la transition, ce n'est plus les glissements comme on sentait tout le monde. Donc voilà. Donc on va prendre Hugues, professeur, on vous garde en ligne. Hugues est à Kisangani, maître Wedi à Kinshasa. Hugues, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous.
Quel est votre avis, Hugues? Vous avez lu d'abord l'accord, ce projet d'accord?
Oui, en partie, comme vous êtes en train de détailler. Alors, moi, j'ose croire, je voulais intervenir dans ce sens. Moi, en tant qu'analyste politique de l'État qui s'en gagne dans la province de la Tchopo, l'inclusivité a été déjà observée par rapport à cette messe de dialogue. Les opposants étaient, ils vont, s'il y avait le camp de la majorité. Le problème primordial, c'est d'abord privilégier l'intérêt de la nation congolaise. C'est d'abord de un. Et en deuxième lieu, sur la classe politique de notre pays, pour que le vieux visage que nous avons vécu depuis que nous étions des enfants, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont ceux qui brandissent leur droit, ils brandissent toujours leur nom. Non, je crois la résolution par rapport à ce projet d'accord doit être d'abord consensuelle, comme a été consensuelle, et celle de dicter la donne à la fée, elle présente vraiment valablement la date exacte afin de pouvoir apaiser un peu la psychologie de toute la population. Et sinon, c'est de mettre le poudre aux yeux du peuple congolais. Nous voulons maintenant bâtir notre pays. Le temps de distraction a été déjà révolu. On ne doit toujours pas tourner dans de préambules, tourner en rond. Ceux-là qui veulent seulement se retrouver politiquement dans notre pays. Non. La classe politique doit être rajeunie au Congo. Nous suivre les gens qui sèment le trouble. Ce sont le peuple congolais, les enfants congolais qui sont en train de croupir et mourir.
Voilà, merci beaucoup, Hugues. On va revenir un peu au sujet, hein, parce que c'est l'accord avec ces articles, nous détaillons dans les débats. Voilà, il en va aussi pour tous ceux qui vont intervenir après. Donc, pour que nous avançons dans les débats, ne revenons pas sur des discussions ou des considérations générales, les débats sur les dialogues, qui est là, qui ne participe pas. Alors, aujourd'hui, nous parlons du projet d'accord politique, les projets qui parlent de la formation d'un gouvernement de large union nationale. Le président actuel reste en place et les 10 jours de, disons, pendant la période intérimaire, 10 jours après l'organisation des élections, on doit, le nouveau élu, le président élu, doit déjà entrer en fonction. Donc, tous ces points, nous soumettons ça au débat. Maître Wedi, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, bonjour, messieurs les professeurs Kamukuni et tous les auditeurs de Radio Kamukuni.
Quel est votre avis? Nous avons suivi les uns les autres.
Oui, messieurs les journalistes, merci pour l'occasion que vous m'accordez. Je voulais être rapide par rapport à ces projets qui est en train de circuler. J'ai eu le temps de lire quelques grandes lignes. Je voulais relever la première des choses, c'est que si cet accord est signé à son état actuel, il va causer énormément de troubles dans les pays. J'ai renchéri les confrères qui est intervenu à partir de Mbandaka. Messieurs les journalistes, Premier ministre va sortir de l'opposition. Il va gérer, il va répondre devant quelle majorité. C'est connu au jour d'aujourd'hui que notre assistance, l'Assemblée nationale, a comme majorité ceux qui soutiennent les présidents en place. Deuxièmement, toujours dans cet accord-là, je n'ai pas retenu l'article, il est dit que le gouverneur, les chefs de chefferie et toutes les autres institutions au niveau de la décentralisation vont rester en place. Monsieur le gouverneur, monsieur les journalistes, le Premier ministre va gérer avec qui comme collaborateur? Parce que là, on a comme l'impression que le Premier ministre, tout de suite, a tout à ça, mais il aura à pouvoir continuer l'action de l'État jusqu'au niveau le plus bas de l'État. Qui vont être les collaborateurs du Premier ministre? Il va connaître les gens de la majorité qui sont là et qui ne vont pas répondre. Donc, ça sera un accord. S'il est vraiment, j'étais en train de dire, s'il est voté à ce point, il va causer énormément de problèmes sur les points juridiques. Autre chose, messieurs les journalistes, autre chose, c'est que à ce stade, on ne sait pas nous dire, monsieur le Premier ministre va sortir de la majorité. Mais un autre problème, messieurs les journalistes, c'est l'opposabilité de conclusion de l'accord. Si les plans juridiques, ceux qui vont continuer à revendiquer, à s'opposer à tout ce qui sera retenu comme accord, seront reprochés sur base de quoi? Parce que, de principe, la Constitution est déjà violée. Nous tous nous sommes d'accord qu'à ce stade, c'est le problème de la violation de la Constitution. Je rappelle à tous les auditeurs que même l'article qui prévoit l'enseignement primaire gratuit en RDC est violé depuis que la Constitution est là et personne n'en parle. Donc la violation de la Constitution, on peut que dire, on ne peut pas mettre les faits dans le pays, acceptant ce qui est déjà là comme faiblesse, mais il faut que l'on puisse signer cet accord avec la bonne représentativité de ces journalistes. Donc voilà, à ce niveau, c'est l'option de la formation du gouvernement qui m'a beaucoup plus intéressé lorsque j'ai lu. Mais sur le plan juridique, il y a énormément de problèmes. Je me dis que nous serons dans un gouvernement des revendications, des marches, et tous les jours, il y aura des
merci marches. Merci beaucoup, Maître Wedi, votre préoccupation par rapport au suivi. Alors, je vous renvoie à l'article 28 de ce projet d'accord qui dit, pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions du présent accord, les parties conviennent de l'établissement d'un comité de suivi des mises en œuvre des résolutions du dialogue CSD en abrégé. Pacifique, vous êtes à l'ambassade. Bonjour, Pacifique.
Bonjour GL et bonjour au professeur Kamkounye également et à toute la population de la République démocratique du Congo qui est en train de nous suivre pendant ce moment. Les drafts d'un accord du dialogue qui est en train de circuler ici et là, GR, ne respectent pas la résolution 2277. Mais c'est là où il y a un véritable problème, GR. Résolution de la 2277, est-ce qu'il y a? Il n'y en a pas. Pourquoi parler maintenant de dialogue? Parce que c'était ça la véritable motivation qui a fait que le dialogue ait lieu. Aujourd'hui, on nous parle du gouvernement des larges unions nationales. Mais c'est le gouvernement le plus faible au monde, GR. Je crois que vous le savez. Que ce soit les membres de l'opposition, que ce soit les membres de la majorité, tous vont se retrouver au mangeoir. Mais qui contrôlera qui? Ça sera quoi? Une rupture totale. Quel résultat? Ils s'avéreront sur quel projet, quel objectif? Ça sera à toujours la souffrance du peuple congolais. L'exclusivité est où dans tout cela? Les 280 personnes participant au dialogue ont eu des mandats de la population congolaise? Je ne crois pas. Et voilà ce que la majorité présidentielle recherchait.
Voilà.
Parce que c'était une contre. Nous y sommes maintenant.
Oui, parce que
c'est qui sera le Premier ministre? Parce que c'était le calcul. Je dois quand même répéter aujourd'hui que voilà.
Oui, dans le débat.
Qui sera maintenant le Premier ministre?
Mais c'est la question.
Nous ne pouvons pas aller de violation à violation. On a violé. Le professeur Kamkounye a bien expliqué.
Merci.
Et donc, si nous voulons bien réfléchir,
merci beaucoup, Pacifique.
On va violer l'article 78.
Pacifique, merci beaucoup. Je crois que nous n'allons pas verser dans les jugements des valeurs, d'autant plus que les débats se tiennent. Il y a des consultations. On nous a laissé entendre que les facilitateurs ont été voir les ambassadeurs. Il y a eu des consultations. Aujourd'hui, semble-t-il qu'il sera avec la CENI. Il y a de l'autre côté les rassemblements qui ne peuvent pas aussi organiser un conclave pour sortir un peu quelques recommandations qui pourraient confronter avec, ces projets d'accord. Merci beaucoup, Pacifique. Alors, José, vous êtes à Boindé. En une minute, José, bonjour.
Bonjour, je suis en ligne.
Voilà, José, est-ce que vous avez à lire cet accord? Quel est votre avis? Qu'est-ce qui vous a impressionné dans ces projets d'accord? Rapidement, en une minute.
Si vous comprenez bien, Boindé, on est un peu ébané, tout ça, mais je pense que ça ne nous empêche pas d'intervenir. Moi, je crois que les accords, il y a des articles de nous comme ça, où les éminents de personnes ont intervenu. Mais dans tout ça, moi, j'aurais donné un conseil, n'est-ce pas, à ceux qui sont au niveau de l'opposition, entre autres Camille, parce que c'est lui qui mène les autres bateaux, ces bateaux de l'opposition. Donc, comme ils sont sortis, n'est-ce pas, hier, il y a eu rencontre, n'est-ce pas, avec Kodjo et les ambassadeurs, et ils parlent, n'est-ce pas, de l'inclusivité. Ça veut dire quoi? Et c'est Camille et les autres ont tout intérêt d'attendre à ce qu'une grande phase de l'opposition puisse participer à ce dialogue. Là, on va parler d'un bon dialogue, et avec tout ce qu'on a été de reconnaître avec des articles, tout ça pour faire de tromper le peuple, je pense que Camille aura la vie sauve. Donc Camille a tout intérêt d'être à l'écart comme ils se sont retranchés, et attendre à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir des suites de dissuader ou de convaincre ceux qui sont en dehors du dialogue, pour que tout le monde puisse participer, et là, Camille aura la vie sauve politiquement. Si ce n'est pas le cas, si Camille s'arrête encore, n'est-ce pas, d'accepter tout ce qui sont en train avec
ce
pour son avenir politique.
Merci beaucoup, José.
Je pense que l'occasion de la ronde, Camille va comprendre et que le dialogue sera inclusif ou le rassemblement aussi, le rassemblement va participer.
Merci beaucoup, José. Merci. Alors, professeur Kamukuni, on va conclure avec vous. Après avoir suivi les uns les autres, c'est vrai, bon, on se rend compte que beaucoup d'entre les auditeurs, ils ont quand même lu de manière un peu parcellaire. D'autres ont eu cette chance, d'autres non. Les uns ont eu cette chance, les autres non. Bah, voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous avons suivi Thomas Lokondo, l'honorable Thomas Lokondo, qui a donné de la voix aussi pour fustiger cela, pour dire que voilà, c'est pratiquement un projet d'accord anticonstitutionnel.
Oui, mais je crois que je venais de le dire, hein, l'ensemble de l'accord n'est pas inconstitutionnel, on ne peut pas le dire. Disons qu'il y a certaines mentions, parce que c'est un projet Il faut bien que ceux qui dialoguent continuent à dialoguer, continuent à négocier, l'opposition d'une part, la société civile, la majorité présidentielle, pour que l'objectif poursuivi soit atteint. L'objectif du dialogue étant l'organisation des élections apaisées dans la paix pour l'ensemble de notre population. Parce que nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, revenir en arrière pour procéder par la prise de pouvoir, par la force, par des coups d'État et consorts. Nous avons avancé. Il y a quelques erreurs qui ont été commises. Des responsabilités doivent être reconnues de part et d'autre. Tout le monde a une responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui. L'essentiel pour nous, c'est que, à travers la paix, le dialogue, qu'on puisse parvenir à avoir une solution négociée qui puisse nous amener vers l'avant, c'est-à-dire vers un retour, vers un processus normal des élections qui puisse nous permettre d'élire à des périodes bien indiquées nos dirigeants, afin que notre peuple ne souffre plus jamais de remplacement de ses mandataires.
Professeur Ambroise, on ne parle pas de la transition dans ces projets d'accord, on parle plutôt d'une période intérimaire.
Il ne s'agit pas de la transition, je voulais déjà le dire, et c'est pour cette raison que j'ai justement critiqué cette partie, le chapitre 9, qui s'égare un peu. Vous voyez, par exemple, au point C, on fait état des conseillers municipaux, des conseillers urbains, des conseillers, etc., des conseillers de secteur, qui n'existent pas actuellement. Vous voyez, il faudra recadrer l'accord pour pouvoir trouver la forme normale, parce que nous ne devons pas donner l'impression que ceux qui sont au dialogue aujourd'hui, nos représentants, se sont réunis pour se partager un certain gâteau. J'ai entendu parler de mangeoire. C'est impropre. C'est-à-dire que l'opposition, qui aura accepté de collaborer, doit comprendre qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui le réclament, voilà, d'autres réclament le respect,
oui,
et donc. Oui.
Professeur Ambroise Kamukudi, on ne saura pas aller plus loin avec vous. C'est par ici que nous mettons un terme à ces programmes. Nous quittons donc ces lieux pour d'abord en disant merci à William Ngamba qui a assuré la mise en onde de ces programmes. Jérémy Lamine, j'étais à la réalisation. Julie Pesabungunda était au standard. Et J.R. Lungembo Luabung Anji a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebujangé. À très bientôt.